Khalil Gibran.
Le prophète. Al-Mustapha, l'élu et le bien-aimé, qui était l'aube de son propre jour, avait attendu 12 ans dans la cité d'Orphalèse, le retour du navire qui allait le ramener dans son île natale. Et en cette 12e année, au 7e jour de l'Elol, le mois de la moisson, il gravit la colline à l'extérieur de l'enceinte de la cité et regarda le large. Il aperçut le navire qui arrivait dans la brume. Puis, les portes de son cœur s'ouvrirent en grand et sa joie s'envola sur la mer. Il ferma les yeux et pria dans le silence de son âme. Mais alors qu'il redescendait de la colline, la tristesse l'envahit et il pensa en son fort intérieur. Comment pourrais-je aller en paix et sans peine? Non, je ne quitterai pas cette cité sans une blessure à l'âme. Longs furent les jours de souffrance que j'ai passés à l'intérieur de ces murs, et longues furent les nuits de solitude. Et qui put abandonner sa souffrance et sa solitude sans regret? J'ai dispersé trop de fragments de l'esprit dans ces rues. Les enfants de mon attente sont trop nombreux qui marchent nus parmi ces collines, et je ne puis m'en détacher sans culpabilité ni douleur. Ce n'est pas un simple habit que j'enlève en ce jour, mais une peau que je déchire de mes propres mains. Ce n'est pas non plus une pensée que je laisse derrière moi, mais un cœur que la faim et la soif ont adouci. Mais je ne puis demeurer davantage. La mer qui appelle toute chose vers elle m'appelle, et je dois embarquer. Car rester, bien que les heures brûlent dans la nuit, c'est se figer, cristalliser, être fondu dans un moule. J'emporterai volontiers avec moi tout ce qui est ici, mais comment le pourrais-je? Une voix ne peut pas emporter la langue et les lèvres qui lui donnent des ailes. Elle doit s'élancer seule dans les terres. Et seule sans son nid, l'aigle volera dans le soleil. À présent qu'il est parvenu au pied de la colline, il se tourna à nouveau vers la mer. Il vit son navire qui approchait du port, et à sa proue les marins des hommes de son pays. Et son âme cria dans leur direction. Ô, fils de ma mère ancienne, vous, cavalier des flots, maintes fois vous avez navigué dans mes rêves, et maintenant vous arrivez dans mon réveil, qui est mon rêve le plus profond. Je suis prêt à partir, et mon impatience, aux voiles déployées, attend le vent. Je vais respirer une dernière fois dans cet air calme. Je vais regarder encore une dernière fois en arrière. Puis, je serai parmi vous, un marin parmi ses pairs. Et toi, vaste mer infatigable, qui seul accorde la paix et la liberté aux fleuves et aux ruisseaux. Ce ruisseau n'a plus qu'une seule courbe à emprunter, un seul autre murmure à pousser dans cette clairière. Et puis, je viendrai vers toi, une goutte infinie dans un océan infini. Et tout en marchant, il vit au loin des hommes et des femmes qui quittaient leurs champs et leurs vignes et se ruaient vers les portes de la cité. Et il entendit leur voix qui appelait son nom, s'interpellait de champ en champ pour s'annoncer l'arrivée du navire. Et il se dit, le jour de la séparation sera-t-il le jour de la réunion? Et dira-t-on de mon soir qu'il était en vérité mon homme? Et que donnerai-je à celui qui a laissé sa charrue en plein sillon ou à celui qui a arrêté la roue de son pressoir à vin? Mon cœur va-t-il devenir un arbre chargé de fruits que je pourrai cueillir et leur distribuer? Et mes désirs couleront-ils comme une fontaine pour que je puisse remplir leur coupe? Suis-je une harpe pour que la main du puissant puisse me toucher, ou bien une flûte pour que son souffle passe à travers moi? Je cherche le silence, et quel trésor ai-je trouvé dans le silence que je pourrais dépenser avec confiance? Et si c'est mon jour de récolte, dans quel champ ai-je semé la graine, et en quelle saison oubliée? Si c'est bien là, l'heure où j'élève ma lampe, ce n'est pas ma flamme qui brûlera. Vide et sombre, j'élèverai ma lampe, et le gardien de la nuit la remplira d'huile, et il l'allumera aussi. Tels furent ses propos, mais dans son cœur, bien des choses demeuraient informulées, car lui-même ne pouvait exprimer son secret le plus profond. Et quand il entra dans la cité, tout le monde vint à sa rencontre et cria vers lui d'une seule voix. Et les anciens de la cité s'avancèrent et dirent, ne t'éloigne pas de nous. Tu étais la lumière de midi dans notre crépuscule, et ta jeunesse nous a donné des rêves. Tu n'es pas un étranger parmi nous, ni un invité, mais notre fils et notre très-aimé. Que nos yeux ne soient pas privés de ton visage. Et les prêtres et les prêtresses lui dirent, que les vagues de la mer ne nous séparent pas, et que les années que tu as passées dans notre brume ne deviennent pas un souvenir. Tu as marché parmi nous comme un esprit, et ton ombre a été une lumière sur nos visages. Nous t'avons beaucoup aimé, mais notre amour était muet et voilé. Mais maintenant, il t'appelle à haute voix et veut se révéler à toi. Il en a toujours été ainsi, de l'amour. Il ne connaissait profondeur qu'à l'heure de la séparation. Et d'autres vinrent aussi, et l'implorèrent. Mais il ne leur répondit pas. Il ne fit que courber la tête, et ceux qui étaient à côté de lui virent ses larmes tomber sur sa poitrine. Et le peuple lui fit cortège jusqu'à la grande place, devant le temple. Une femme sortit du sanctuaire, qui s'appelait Almitra, et c'était une voyante. Et il la regarda avec une infinie tendresse, car elle avait été la première à l'avoir suivi et avoir cru en lui, le jour même où il était arrivé dans leur cité.
Prophète de Dieu, en quête du meilleur, tu as longtemps scruté l'horizon pour y apercevoir ton navire. Et maintenant ton navire est arrivé, et il te faut partir. Profonde est ta nostalgie pour le pays de tes souvenirs et la patrie de tes plus grands désirs. Et notre amour ne veut pas t'attacher, ni nos besoins te retenir. Mais avant que tu nous quittes, nous te demandons de nous parler et de nous léguer ta vérité. Et nous la transmettrons à nos enfants et eux-mêmes à leurs enfants. Et de la sorte, elle ne périra jamais. Dans ta solitude, tu as veillé avec nos jours. Et dans ta veille, tu as écouté les larmes et les rires de notre sommeil. Partant, révèle-nous à nous-mêmes et dis-nous tout ce qui t'a été montré de ce qui est entre la naissance et la mort.
Peuple d'Orphalèse, de quoi puis-je parler, sinon de ce qui, en ce moment même, émeut vos âmes?
Parle-nous de l'amour.
Il leva la tête, regarda la foule assemblée, et le silence se fit parmi eux, et d'une voix forte il déclara.
Quand l'amour vous fait signe, suivez-le, bien que ses chemins soient durs et escarpés, et quand ses ailes vous enveloppent, abandonnez-vous à lui, bien que l'épée cachée dans son pénage puisse vous blesser. Et quand il vous parle, croyez en lui, bien que sa voix puisse détruire vos rêves comme le vent du nord dévaste vos jardins, car tout comme l'amour vous couronne, il vous crucifiera. Il est autant pour votre croissance que pour votre élagage, tout comme il s'élève à votre hauteur et caresse vos plus tendres branches qui frémissent au soleil. Il descendra dans vos racines et les ébranlera dans leur attachement à la terre. Comme des gerbes de blé, il vous cueille pour lui. Il vous bat pour vous mettre à nu. Il vous tamise pour vous libérer de votre bal. Il vous moue jusqu'à la blancheur. Il vous pétrit jusqu'à ce que vous soyez malléable. Et puis il vous livre à son feu sacré, afin que vous deveniez le pain sacré du festin sacré de Dieu. Et l'amour fera toutes ces choses de vous pour que vous puissiez connaître les secrets de votre cœur et, grâce à cette connaissance, que vous deveniez un fragment du cœur de la vie. Mais si dans votre peur vous ne cherchez que la paix et le plaisir de l'amour, alors il vaut mieux pour vous recouvrir votre nudité et passer loin de l'air de l'amour, et vous rendre dans le monde sans saison, où vous rirez, mais pas tous vos rires, et pleurerez, mais pas toutes vos larmes. L'amour ne donne rien de lui-même et ne prend rien de lui-même. L'amour ne possède ni ne veut être possédé, car l'amour suffit à l'amour. Quand vous aimez, vous ne devez pas dire « Dieu est dans mon cœur », mais plutôt « Je suis dans le cœur de Dieu ». Et ne pensez pas que vous pouvez diriger le cours de l'amour, car c'est lui, s'il vous en trouve digne, qui dirigera votre cours. L'amour n'a pas d'autre désir que de s'accomplir. Mais si vous aimez et devez avoir des désirs, alors que vos désirs soient les suivants. Se fondre et être comme un ruisseau qui chante sa mélodie dans la nuit. Connaître la souffrance de trop de tendresse. Être blessé par sa propre intelligence de l'amour. Et saigner volontiers et gaiement. Se réveiller matin le cœur léger et rendre grâce une autre journée d'amour. Se reposer à midi et méditer sur l'extase de l'amour. Rentrer chez soi le soir avec gratitude, et puis s'endormir avec en son cœur une prière, adressée à la bien-aimée, et un chant de louange sur les lèvres.
Une femme tenait un bébé contre sa poitrine.
Parle-nous des enfants.
Vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont les fils et les filles de l'appel de la vie à elle-même. Ils viennent à travers vous, mais pas de vous. Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. Vous pouvez leur donner votre amour, mais pas vos pensées, car ils ont leurs propres pensées. Vous pouvez abriter leur corps, mais pas leurs âmes, car leurs âmes résident dans la demeure du lendemain, que vous ne pouvez pas visiter, pas même dans vos rêves. Vous pouvez vous efforcer d'être comme eux, mais ne cherchez pas à les faire comme vous. Car la vie ne revient pas en arrière, ni ne s'attarde avec hier. Vous êtes les arcs grâce auxquels vos enfants, tels des flèches vivantes, sont projetés. L'archer voit la cible sur le sentier de l'infini, et il vous bande de toutes ses forces pour que ces flèches puissent voler vite et loin. Laissez-vous tendre dans les mains de l'archer avec allégresse. Car tout comme il aime la flèche qui vole, il aime l'arc qui est stable.
Et la prêtresse prit à nouveau la parole.
Parle-nous de la raison et de la passion.
Votre âme est souvent un champ de bataille sur lequel votre raison et votre jugement font la guerre contre la passion et votre appétit. Puissais-je être le pacificateur dans votre âme afin de transformer la discorde et la rivalité de vos éléments en unité et en mélodie. Mais comment le pourrais-je si vous n'êtes pas vous-même les pacificateurs, les amants de tous vos éléments? Votre raison et votre passion sont le gouvernail et les voiles de votre âme navigante. Si vos voiles ou votre gouvernail sont cassés, vous ne pouvez qu'être ballotté et partir à la dérive, ou bien rester encalminé en pleine mer. Car la raison gouvernant seule restreint tout élan. Et la passion livrée à elle-même est une flamme qui brûle jusqu'à sa propre destruction. Partant, que votre âme exalte votre raison à la hauteur de la passion afin qu'elle puisse chanter, et que la raison dirige votre passion afin que votre passion puisse vivre à travers sa propre résurrection quotidienne et tel le phénix renaître de ses cendres. Je voudrais que vous considériez votre jugement et votre appétit, tout comme vous le feriez de deux hôtes aimés dans votre maison. Certes, vous ne voudriez pas honorer un autre plus que l'autre, car celui qui accorde plus d'attention à l'un perd l'amour et la confiance des deux. Parmi les collines, quand vous êtes assis à l'ombre fraîche des blancs peupliers, partageant la paix et la sérénité des champs et des prairies lointains, alors que votre cœur dit en silence « Dieu repose dans la raison », et quand l'orage éclate, qu'un vent puissant secoue la forêt, et que le tonnerre et l'éclair proclament la majesté du ciel, alors que votre cœur dise, avec une crainte révérencieuse, « Dieu bouge dans la passion », et parce que vous êtes un souffle dans la sphère de Dieu, et une feuille dans la forêt de Dieu, vous aussi devriez reposer dans la raison et agir dans la passion.
Puis, une femme dit
« Parle-nous de la joie et de la tristesse ».
Votre joie et votre tristesse sans masque, et le même puits d'où fuse votre rire fut souvent rempli de vos larmes. Et comment peut-il en être autrement? Plus la tristesse creuse en vous, plus votre être peut contenir de joie. La coupe qui contient votre vin n'est-elle pas la même qui a brûlé dans le four du potier? Et le luth qui apaise votre âme n'est-il pas fait du même bois qui fut évidé au couteau? Quand vous êtes joyeux, regardez tout au fond de votre cœur, et vous verrez que ce qui vous procure de la joie n'est autre chose que ce qui fut source de votre tristesse. Quand vous êtes triste, regardez à nouveau au fond de votre cœur, et vous verrez qu'en vérité, vous pleurez pour ce qui fut votre délice. D'aucuns parmi vous disent « La joie est plus grande que la tristesse ». Et d'autres disent « Non, la tristesse est plus grande, mais je vous dis, moi, qu'elles sont inséparables. Elles arrivent ensemble. Et quand l'une s'assied seule à votre table, souvenez-vous que l'autre dort dans votre lit. En vérité, vous êtes suspendu comme une balance entre votre tristesse et votre joie. Ce n'est que quand vos plateaux sont vides que vous êtes immobile et en équilibre. Quand le gardien du trésor vous soulèvera pour peser son or et son argent, il faudra que votre joie ou votre tristesse s'élève ou s'abaisse.
Et un jeune homme dit « Parle-nous de l'amitié. »
Votre ami est la réponse à vos besoins. Il est votre champ où vous semez avec amour et moissonnez avec reconnaissance. Et il est votre table et votre âtre, car vous venez à lui en ayant faim et vous le cherchez pour la paix. Quand votre ami révèle sa pensée, ne craignez pas le nom dans votre esprit, et ne refusez le oui. Et quand il est silencieux, votre cœur ne cesse d'écouter son cœur, car dans l'amitié, toutes les pensées, tous les désirs, toutes les attentes naissent sans parole et sont partagées dans une joie muette. Quand vous vous séparez de votre ami, vous n'avez pas de peine, car ce que vous aimez le plus en lui peut être plus clair en son absence, tout comme la montagne à escalader est plus nette vue depuis la plaine, et qu'il n'y ait aucun but dans l'amitié sinon l'approfondissement de l'esprit, car l'amour qui ne cherche rien d'autre que la révélation de son propre mystère n'est pas l'amour, mais un filet jeté, et seul l'inutile est capturé. Et que le meilleur de vous soit pour votre ami. S'il doit connaître le reflux de votre marée, qu'il connaisse aussi son flux. Car qu'est-ce que votre ami si vous devez le chercher pour tuer le temps? Cherchez-le toujours pour le temps à vivre, car c'est à lui de remplir votre besoin, mais pas votre vide. Et dans la douceur de votre amitié, qu'il y ait des rires et le partage des plaisirs. Car dans la rosée des petites choses, le cœur trouve son matin et sa fraîcheur.
Et puis, un érudit l'interrogea. Parle-nous de la parole.
Vous parlez quand vous cessez d'être en paix avec vos pensées, et quand vous ne pouvez demeurer davantage dans la solitude de votre cœur, vous vivez sur vos lèvres, et le son est un divertissement et un passe-temps. Et dans presque tous vos propos, la pensée est à moitié assassinée. Car la pensée est un oiseau de l'espace, qui, dans une cage de mots, déploie ses ailes, mais ne peut pas voler. Il en est parmi vous qui cherchent les bavards de peur d'être seuls. Le silence de la solitude révèle à leurs yeux leur moi nu, et ils voudraient s'enfuir. Et il en est qui parlent, et sans le savoir ni l'avoir prémédité, et qui révèlent une vérité qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes. Et il en est qui portent la vérité en eux, mais ne l'expriment pas avec des mots. Au fond de cela, l'esprit demeure dans le rythme du silence. Quand vous rencontrez votre ami sur le bord de la route ou sur la place du marché, que l'esprit en vous anime vos lèvres et dirige votre langue, que la voix en vous parle à l'oreille de son oreille, car son âme gardera la vérité de votre cœur, comme le bouquet du vin qui persiste, quand la couleur est oubliée et que la coupe n'existe plus.
Et un astronome dit : Maître, qu'en est-il du temps ?
Vous voudriez mesurer le temps, l'infini et l'incommensurable. Vous voudriez ajuster votre conduite et même diriger le cours de votre esprit selon les heures et les saisons. Du temps, vous voudriez faire un ruisseau sur les rives duquel vous voudriez vous asseoir pour le regarder couler. Cependant, l'Éternel en vous est conscient de l'intemporalité de la vie et sait qu'hier n'est que le souvenir d'aujourd'hui et que demain est le rêve d'aujourd'hui et que ce qui chante et contemple en vous est encore à l'intérieur des limites de ce premier moment qui a essaimé les étoiles dans l'espace. Qui parmi vous ne sent pas que son pouvoir d'aimer est illimité, et pourtant, qui ne sent pas que ce même amour, bien qu'illimité, et ne peut aller d'une pensée d'amour à une autre, ni d'un geste d'amour à un autre, est contenu au centre de son être? Et le temps n'est-il pas comme l'amour, indivisible et immobile? Mais si dans votre pensée, vous devez mesurer le temps en saison, que chaque saison encercle toutes les autres, et qu'aujourd'hui embrasse le passé, dans le souvenir et le futur, dans l'aspiration.
Et l'un des anciens de la cité dit : Parle-nous du bien et du mal.
Du bien en vous je puis parler, mais pas du mal. Car qu'est-ce que le mal, sinon le bien torturé par sa propre faim et sa propre soif ? En vérité, quand le bien a faim, il cherche de la nourriture même dans les grottes obscures, et quand il a soif, il boit même des eaux mortes. Vous êtes bon quand vous faites un avec vous-même, mais quand vous ne faites pas un avec vous-même, vous n'êtes pas mauvais, car une maison divisée n'est pas un repère de voleurs, c'est juste une maison divisée. Et un navire sans gouvernail peut errer sans but parmi les récifs, sans pour autant sombrer. Vous êtes bon quand vous vous efforcez de donner de vous-même, mais vous n'êtes pas mauvais quand vous cherchez à gagner quelque chose pour vous-même, car lorsque vous essayez de gagner quelque chose, vous n'êtes qu'une racine qui s'accroche à la terre et se nourrit à son sein. De toute évidence, le fruit ne peut pas dire à la racine « Sois comme moi, mûre, pleine et donnant toujours de ton abondance. » Car pour le fruit, donner est un besoin comme recevoir est un besoin de la racine. Vous êtes bon quand vous êtes pleinement éveillé dans vos propos, mais vous n'êtes pas mauvais quand vous dormez tandis que votre langue titube. Et même un discours trébuchant peut renforcer une langue faible. Vous êtes bon quand vous marchez résolument vers votre but et d'un pas hardi, mais vous n'êtes pas mauvais quand vous y allez en claudiquant. Même ceux qui boitent ne reculent pas. Mais vous qui êtes fort et rapide, gardez-vous de claudiquer comme le boiteux, en croyant agir avec bienveillance. Vous êtes bon de mille façons, et vous n'êtes pas mauvais quand vous n'êtes pas bon. Vous ne faites que musarder et paresser. Quel dommage que les cerfs ne puissent enseigner la vitesse aux tortues.
Et un vieux prêtre dit, parle-nous de la religion.
Ai-je parlé d'autre chose aujourd'hui ? La religion n'est-elle pas tout acte et toute réflexion ? Et ce qui n'est ni acte ni réflexion, mais un émerveillement et une surprise jaillissant toujours dans l'âme, même quand les mains taillent la pierre ou tendent le métier à tisser. Qui peut séparer sa foi de ses actions, ou sa croyance de ses occupations ? Qui peut étaler ses heures devant lui, en disant « Ceci pour Dieu et ceci pour moi, ceci pour mon âme et ceci pour mon corps. Toutes vos heures sont des ailes qui battent dans l'espace d'un mois à un autre mois. » Celui qui porte sa moralité comme son plus bel habit ferait mieux d'aller nu. Le vent et le soleil ne feront pas de trous dans sa peau. Et celui qui règle sa conduite selon l'éthique emprisonne son oiseau chanteur dans une cage. Le chant le plus libre ne passe pas à travers des barreaux et des barbelés. Et celui pour qui le culte est une fenêtre, à ouvrir mais aussi à fermer, n'a pas encore visité la demeure de son âme dont les fenêtres sont ouvertes d'aube en aube. Votre vie quotidienne est votre temple et votre religion. Chaque fois que vous y pénétrez, elle prend tout votre être avec vous. Prenez la charrue et la forge, le maillet et le luth, les choses que vous avez façonnées par nécessité ou pour le plaisir, car en rêve vous ne pouvez vous élever au-dessus de vos réalisations, ni tomber plus bas que vos échecs. Et prenez avec vous tous les hommes, car en adoration, vous ne pouvez voler plus haut que leurs espoirs, ni vous abaisser plus bas que leur désespoir. Et si vous voulez connaître Dieu, ne cherchez pas à résoudre des énigmes. Regardez plutôt autour de vous, et vous le verrez jouer avec vos enfants. Et regardez dans l'espace, vous le trouverez marchant dans les nuages, étirant ses bras dans l'éclair, et descendant dans la pluie. Vous le verrez souriant dans les fleurs, puis se levant et agitant ses mains dans les arbres.
Almitra parla à nouveau.
Nous voudrions maintenant t'interroger sur la mort.
Vous voudriez connaître le secret de la mort, mais comment le trouverez-vous, à moins de le chercher dans le cœur de la vie ? Le hibou, dont les yeux faits pour la nuit sont aveugles le jour, ne peut dévoiler le mystère de la lumière. Si vous voulez vraiment apercevoir l'esprit de la mort, ouvrez grand votre cœur, au corps de la vie, car la vie et la mort ne font qu'un, tout comme le fleuve et la mer ne font qu'un. Dans la profondeur de vos espoirs et de vos désirs se trouve votre connaissance silencieuse de l'au-delà, et, telle des graines rêvant sous la neige, votre cœur rêve du printemps. Faites confiance aux rêves, car en eux est cachée la porte de l'éternité. Votre peur de la mort n'est que le frisson du berger quand il se tient devant le roi dont la main va se poser sur lui pour l'honorer. Le berger n'est-il pas heureux sous son tremblement de devoir porter l'insigne du roi ? Pourtant n'est-il pas plus conscient de son tremblement ? Car qu'est-ce que mourir sinon se tenir nu dans le vent et fondre au soleil ? Et qu'est-ce que cesser de respirer sinon libérer le souffle de ses marées incessantes afin qu'il puisse s'élever, s'étendre et chercher Dieu sans entrave ? Ce n'est que quand vous boirez au fleuve du silence que vous chanterez vraiment, et quand vous aurez atteint le sommet de la montagne, alors vous commencerez à monter. Et quand la terre réclamera vos membres, alors vous danserez vraiment.
Et à présent ce fut le soir, et Almitra la voyante dit,
béni soit ce jour, ce lieu et ton esprit qui a parlé.
Était-ce moi qui parlais ? N'étais-je pas aussi un auditeur ? Puis il descendit les marches du temple, et toute la foule le suivit. Il atteignit son navire, et se tint sur le pont, et se tournant à nouveau vers la foule, il éleva la voix, et dit « Peuple d'Orphalèse, le vent m'invite à vous quitter. Je suis moins pressé que le vent, mais je dois partir. Nous autres les errants, qui cherchons toujours le chemin le plus solitaire, ne commençons jamais une journée où nous en avons terminé une autre, et aucun lever de soleil ne nous trouve là où le crépuscule nous a laissé. Même quand la terre dort, nous voyageons. Nous sommes les graines de la plante tenace, et c'est dans la maturité et la plénitude de notre cœur que nous sommes donnés au vent et essaimés. Bref furent mes jours parmi vous, et plus brèves encore les paroles que j'ai prononcées. Mais si ma voix venait à s'éteindre dans vos oreilles, et si mon amour venait à s'effacer de vos mémoires, alors je reviendrai, et avec un cœur plus riche, et des lèvres plus soumises à l'esprit, je parlerai. Oui, je reviendrai avec la marée, et même si la mort me cache, et que le plus grand silence m'enveloppe, je rechercherai encore votre compréhension. Et je ne chercherai pas en vain. Si rien de ce que j'ai dit n'est vrai, cette vérité se révélera avec une voix plus claire et des mots plus proches de vos pensées. Je pars avec le vent, peuple d'orphalaise, mais pas dans le vide. Et si ce jour n'est pas un accomplissement de vos vœux et de mon amour, qu'il soit une promesse pour un autre jour. Les vœux de l'homme changent, mais pas son amour, ni son désir de voir son amour réaliser ses vœux. Sachez par conséquent que je reviendrai de ce grand silence. La brume qui se dissipe à l'aube, en ne laissant que des gouttes de rosée dans les champs, remontera, formera un nuage et tombera sous une forme de pluie. Et je n'ai pas été différent de la brume. Dans le silence de la nuit, j'ai marché dans vos rues, mais mon esprit est entré dans vos demeures. Et vos battements de cœur étaient dans mon cœur, et votre souffle était sur mon visage. Et je vous connaissais tous. Oui, je connaissais votre joie et votre peine. Et dans votre sommeil, vous rêvez tes mes rêves.